Inter, le 18-20.
C'est une source d'inégalité dont presque aucun candidat à la présidentielle ne parle. Et pourtant, elle est bien réelle dans cette France de plus en plus accro aux nouvelles technologies. La fracture numérique, près de 2 foyers sur 10, un peu moins, n'ont toujours pas d'accès à Internet, sans parler de toutes ces zones rurales et même parfois urbaines où les téléphones portables ne passent toujours pas. Fracture générationnelle, géographique, sociale et bien sûr aussi économique, car l'accès au numérique est devenu une condition absolue du développement des territoires. Alors à quand la 4G pour tous et partout en France ? Pourquoi en 2017 tant de zones blanches ou zones grises ? La faute à qui ? Aux opérateurs qui rechignent à investir ? Au nom de la rentabilité ou à l'État qui ne joue pas son rôle ? On pose ces questions ce soir dans ce Téléphone Sonne spécial présidentiel invisible, les thèmes oubliés de la campagne. Et on attend toutes vos questions, vos commentaires au 01 45 24 7000, internet franceinter.fr si vous avez internet, et Twitter hashtag Telson.
Michaël Thébault, le Téléphone Sonne.
Et tout de suite, c'est Odile qui ouvre ce téléphone sonne. Vous nous appelez de Touraine, Odile. Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, moi j'appelais pour témoigner en donnant 3 petits exemples. D'abord, par exemple, on a un abonnement avec Orange, par exemple. Et comme le portable passe à peine, on a été obligé de s'équiper de ce qu'on appelle une femtocell pour pouvoir amplifier le réseau pour qu'on puisse utiliser notre forfait. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on est agriculteur et de plus en plus on nous demande de dématérialiser en fait nos demandes d'aide, énormément de papier, sauf qu'on a un réseau internet qui rame, mais c'est vraiment très exaspérant. Et une petite anecdote, on a un camion pizza qui vient une fois par semaine sur la place du village. Et bien là ce soir, je suis allée commander les pizzas et le paiement par carte bancaire n'a pas pu se faire. Faute de réseau. Alors, une fois sur trois, on ne comprend pas pourquoi, ça ne passe pas. Pour terminer, je vais juste dire, ça ne paraît pas grand-chose, ça paraît un peu idiot, mais tous les jours, quand quelqu'un vous appelle et ça coupe, ça ne capte pas, c'est vraiment énervant et je suis sûre qu'il y a des gens que ça exaspère et c'est ça qui pousse aussi à se dire, en fait, on ne s'occupe pas de nous, on s'en fiche de nous.
C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas être un citoyen 2017 comme tous les autres.
Voilà, exactement. Alors en ville, on fait de la pub pour la 4G, la 5G, puis nous, en fait, on a à peine la 3G, quoi.
Mais vous êtes en zone rurale
En Touraine, j'ai pas l'impression d'être... c'est aucun mépris pour la Creuse, quoi, mais j'ai pas l'impression d'être dans une zone hyper désertifiée. On est en TGV, on a 1 heure de Paris, je suis à 35 minutes de Tours. C'est pas non plus vraiment le fin fond de la campagne.
Mais merci beaucoup, Odile, pour cette photographie d'une réalité qui est partagée quand même par plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de Français. Pour vous répondre, 3 invités ce soir. Régis Turini, président de la FFT, la Fédération Française des Télécoms. À ce titre, vous représentez donc quasiment tous les opérateurs. Vous êtes d'ailleurs aussi secrétaire général de SFR. Bonsoir.
Bonsoir.
Jacques-François Marchandise, cofondateur et secrétaire général de la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir à une voix bien connue du 7-9 d'Inter, c'est l'édito écho de la matinale, Dominique Seux.
Bonsoir.
Directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos. Les Échos qui sortent cette semaine, hein, et on s'y associe un cahier spécial absolument passionnant, ça s'appelle l'audit de la France. Monsieur FFT, président de la FFT, Régis Turini, que répondez-vous à Odile ?
Odile pose une question qui est effectivement une question de préoccupation pour beaucoup de nos concitoyens, notamment en zone rurale ou en zone de montagne. Il y a un certain nombre d'endroits, de zones géographiques dans le pays qui sont peu ou mal ou pas couverts. C'est effectivement la réalité. Alors, il y a tout un programme de résorption de ces zones blanches ou grises qui a été mis en œuvre par le gouvernement, hein, les gouvernements successifs, avec l'aide des collectivités locales et donc des opérateurs qui se sont engagés à résorber ces zones blanches. Maintenant, je voudrais juste préciser que... il est évidemment toujours fâcheux d'être dans un endroit qui n'a pas de réseau, mais si on prend par exemple la 3G, sans aller jusqu'à la 4G, si on prend la 3G, la population est couverte à 99,9%.
Donc Dominique Seux.
Oui, non, la façon dont vous le formulez est tout à fait... elle est honnête, mais il faut la préciser. Vous dites 99,9%. 9% de la population, ce qui ne veut pas dire 99,9%
du territoire.
C'est et donc dans sujet. Le 0,1, et c'est le sujet, le 0,1%, évidemment, qu'on compte beaucoup et représente une certaine surface. La fracture numérique, c'est un peu devenu comme la fracture sociale de Chirac. C'est-à-dire, c'est 20 ans plus tard, quelque chose qui est devenu vraiment insupportable. Et non seulement, et Odile a eu tout à fait raison de le dire, non seulement pour les activités, le confort personnel, on circule en voiture, on est chez soi, on n'a pas le téléphone, on n'a pas Internet, mais pour la vie économique.
Elle parlait de dématérialisation de ces documents administratifs.
La vie économique des entreprises, des particuliers, des agriculteurs, et ce, d'autant plus que le basculement digital qui est en cours fait que les services publics, mais aussi l'Europe, mais aussi les entreprises, les donateurs, etc., exigent, et c'est normal, de plus en plus, de procédures dématérialisées. Donc c'est une urgence collective. Il n'y a plus de retard à accepter, vraiment.
Jacques-François Marchandise, une urgence collective ?
Alors oui, c'est une urgence et en fait, on a pu se poser depuis des années la question de savoir si les réseaux aménageaient ou déménageaient le territoire. Si en fait, on n'allait pas attirer tout un ensemble d'activités vers les zones les plus solvables au détriment des zones les moins solvables, voire des publics qui avaient le compte en banque le moins bien fourni. Alors de fait, ce qu'on constate depuis des années, c'est que les réseaux se répandent, mais on reste avec un paysage en tache de léopard, avec ici et là des y compris en zone urbaine, des endroits qui sont pas bien couverts, où on capte pas bien, où de façon pas très compréhensible, le réseau arrive pas au bon moment, au bon endroit. Et ce qui a changé depuis, c'est que, par exemple, dans des professions et des métiers comme l'agriculture, par exemple, le numérique est en plein milieu. C'est-à-dire que vous en avez besoin, je pense qu'Odile en a besoin, non seulement pour ses démarches administratives, mais pour sa vie quotidienne.
Gestion de l'eau pour telle culture gérée directement. Voilà, c'est sur son smartphone avec satellite.
C'est un des champs les plus numérisés, l'agriculture, sur le plan professionnel. Et c'est aussi un des champs dans lesquels les gens s'en sortent par les sociabilités, les échanges entre eux. Et une partie de ces sociabilités sont numériques. C'est les tutos en ligne, c'est les coups de main quand on n'a pas la solution, etc.
Avant d'aller plutôt directement à la responsabilité, puisque ça représente les deux tiers des questions au standard, juste une précision, zone blanche, zone grise, c'est quoi la différence, Régis Turini?
Non, une zone blanche, c'est une zone où il n'y a aucun réseau, aucun opérateur qui soit présent. Et il y a un programme de résorption de ces zones blanches qui a été initié par le gouvernement. Une zone grise, c'est une zone où il y a au moins un opérateur.
Au moins un, c'est ça.
Voilà, qui fonctionne plus ou moins bien selon les cas. Je reviens juste, si vous me permettez, sur ce que disait Dominique à l'instant. Donc effectivement, le 0,1% de la population qui n'est pas couvert en 3G, ça représente une part, disons, faible de nos concitoyens, mais ça représente, c'est vrai, un territoire important. On parle de 7% du territoire, donc à peu près la surface de la Belgique ou des Pays-Bas. Donc c'est effectivement important. Mais la logique qui est initiée maintenant depuis pas mal d'années, entre les opérateurs, l'État et les collectivités locales, c'est une logique de couverture du territoire qui, je le précise tout de même, n'est pas la logique qui est celle qui a été donnée au départ aux opérateurs télécoms dans leur licence. Ils avaient des obligations de couverture de la population. Donc on est en train de changer de paradigme. En accord avec tous les acteurs, sous la pression tout simplement de la vie quotidienne et de la réalité de l'aménagement numérique du territoire.
Dominique Souet, on repart au standard.
Si vous reprenez si je me trompe, mais je crois qu'en juin, il ne devrait plus avoir de zone blanche. En fait, le plan 1000 communes ont été raccordées, si je puis dire, ces derniers mois, et d'ici la fin juin, ça devrait être quasiment terminé. Hein.
D'ici juin 2017. Voilà. Et le programme de zone blanche, de couverture 3G des zones blanches sera exécuté. Il y a 3600, ce qu'on appelle centres-bourgs, donc des centres-villages, des centres-villes, si vous voulez.
Combien, pardon, 3600
D'accord. Qui doivent être couverts depuis 2008. C'est un programme qui date de 2008, qui doivent être couverts d'ici juin. Et ça sera fait. On est tout à fait dans les temps. Donc ça, c'est un premier programme de couverture des zones blanches. Il y a un deuxième programme qui est hors centre-bourg, qui est sur des sites, disons, stratégiques, des sites prioritaires, définis par les collectivités locales elles-mêmes, par exemple des sites touristiques, qui ne sont pas en centre-ville, qui vont être dans la campagne, ça peut être n'importe quoi, des grottes, des ruines, enfin, etc. C'est un autre programme
qui est également en train d'être exécuté, qui lui concerne 1306. Alors
ça, c'est la 3G, mais en fait, les clients attendent déjà la 4G et la 5G, on en parle pour 2018, c'était normalement 2020, mais en fait, il y a une petite accélération en ce moment.
On verra. Bon, c'est déjà ça, mais c'est vrai qu'il y aura encore des zones en retard. Certes, qui ne seront pas blanches, mais qui seront très en retard. On repart au standard. Louis nous appelle du Calvados. Bonsoir Louis, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir à tous. Merci de prendre mon appel. Et encore une fois, bravo pour la pertinence de vos émissions.
Merci.
J'appelle depuis un petit village du Calvados, qui est une zone gris-blanc, hein, ou blanc-gris, comme vous voulez. J'illustre bien le thème de ce soir. J'appelle de tout près de la fenêtre, parce qu'autrement ça passera pas. Et parfois, il faut sortir dehors. Donc, on ne communique que par beau temps chez nous. Ça, c'est pour le téléphone portable, mais pour Internet, c'est pire. Parce que la ligne fixe est beaucoup trop ancienne ou trop loin du central, du fait que le débit, pour vous donner un chiffre, est à 1/40 de méga. C'est-à-dire, c'est l'Internet du siècle dernier. Donc, heureusement, le Conseil général, le Conseil départemental et général, avant, investissent depuis 4 ans dans la fibre, pour que l'ultra haut débit soit accessible à tous. Enfin, à tous, presque.
C'est-à-dire que ça n'arrivera pas jusque chez vous.
On n'a rien. Et il devait y avoir un plan intermédiaire qui s'appelle le Wi-Fi Max par WireZN, mais apparemment, c'est toujours pas mis en place non plus. Alors, ce qui m'agace un peu, c'est que mes impôts servent à payer le très haut débit à ceux qui avaient déjà le haut débit et qui ne se précipitent pas pour s'abonner à la fibre parce qu'ils n'en ont pas besoin, eux. Résultat, pas de retour sur investissement pour le conseil départemental, donc retard pour le Wi-Fi Max provisoire et pour la fibre à la maison, peut-être en 2025 ou 2030. Donc quand j'entends parler des opérateurs qui se vendent de couvrir à 90 ou 99% le territoire en 3G, en 4G, dans notre village c'est aussi 90%. Mais 90% qui n'ont pas la 3G, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc quand on aura la 5G, le plan fibre de notre région ne sera pas terminé, mais sera devenu obsolète. Voilà, c'était ça, mon témoignage. Merci.
Merci beaucoup, Louis. C'est précis et argumenté. On va vous répondre, mais j'aimerais qu'on donne la parole d'abord à Anne, qui nous appelle de la proche banlieue de Nantes. C'est bien ça, Anne. Bonsoir.
Absolument. Bonsoir à tous. Merci de prendre ma question. Et bravo pour votre émission.
Merci.
Alors, nous, depuis 6 ans et demi, nous habitons Vertoux. C'est une petite commune toute proche de Nantes. Donc, nous, on n'est vraiment pas éloignés d'une grande ville. Hein, et on ne peut pas se servir de nos portables. Dans notre quartier, apparemment, on doit être nombreux parce que quand on se déplace avec mon époux, on voit plein de gens qui téléphonent dehors. Donc, ça ne doit pas être tout à fait normal, n'est-ce pas? On s'est donc adressé à notre opérateur. Là, il nous répond, vous êtes en zone blanche, on ne peut rien faire. Alors, d'après ce que je viens d'entendre, on n'est pas en zone blanche, parce que si j'ai bien compris, la zone blanche, c'est seulement lorsque nous sommes éloignés d'une grande ville. Ce n'est pas notre cas, on est à 10 km de Nantes. Alors, ma question, pouvons-nous exiger, entre guillemets, soit de notre opérateur, soit d'une autorité, quelle qu'elle soit, exiger vraiment qu'on puisse se servir de nos portables? Voilà, c'était
merci,
ma question.
Merci, mais merci, excellente question, Anne. D'abord, pour répondre à Louis, Régis Turini.
Oui, alors sur la question du très haut débit fixe, qui était la question que posait Louis. Bon, il faut savoir que on est rentré dans un chantier industriel absolument colossal qui s'appelle enfin à l'origine ça s'appelle le plan très haut débit, hein, qui vise à couvrir de très haut débit fixe, donc de fibres, le territoire d'ici à 2022. Ce sont des investissements colossaux puisque on parle de 20 milliards. Largement.
Enfin, même la Cour des comptes n'y croit pas, excusez-moi, mais
absolument.
Elle mise plutôt sur 2030 et 15 milliards de plus.
Vous allez dans mon sens. Elle parle de 35 milliards. Bon. En tout cas, en ce qui concerne le plan initial, largement financé par des acteurs privés, donc par les opérateurs. Donc, c'est un chantier qui est. Je voudrais juste sensibiliser nos auditeurs, parce qu'ils n'en ont pas obligatoirement conscience, qui est absolument colossal. Il faut savoir que la couverture du pays en réseau cuivre, il a mis des dizaines d'années. Bon, mais c'est la même chose, si vous voulez. Là, on va couvrir en fibre le territoire. Et c'est des millions de kilomètres de lignes. Des millions. Hein, je veux dire, il y a 20 000 kilomètres d'autoroute. Là, on parle de millions de kilomètres. Donc, c'est un effort absolument énorme. C'est une usine colossale que les opérateurs sont en train de mettre en place avec l'aide des collectivités locales, parce qu'effectivement dans les zones rurales ça se passe beaucoup avec les départements, les régions ou les les intercommunalités. C'est très important, chacun a sa propre stratégie numérique à laquelle les opérateurs sont associés. Donc dans la région de Louis, je ne sais pas exactement où on en est, il faudrait regarder, mais il y a probablement des initiatives publiques-privées, comme on dit.
On sentait aussi l'agacement dans le témoignage de Louis, avec cette idée que finalement les collectivités territoriales et les opérateurs se renvoient un peu la balle.
Je ne crois pas, vous savez, 2017 va être l'année du lancement du plus grand nombre de réseaux d'initiatives publiques, comme ça s'appelle, dans les zones peu denses, les zones rurales. Il y a une vingtaine d'appels d'offres et le pays va bientôt être couvert de fibres. L'objectif de 2022 sera peut-être pas respecté, j'en sais rien si vous voulez, mais... Il y a vraiment un effort absolument colossal qui est fait en concertation avec les collectivités locales. Je crois pas du tout qu'on puisse dire que chacun se renvoie la balle. C'est pas du tout comme ça que ça marche dans la réalité. Dans la réalité, en vérité, tout ça se passe sous l'égide de l'État, avec l'Agence du numérique, avec l'ARCEP, le régulateur, et c'est une vraie coopération.
Jacques-François Marchandise, objectif 2022, on l'a dit. Enfin là, on est en 2017. S'il faut attendre encore 5 ans, voire plus, on comprend l'agacement, voire plus, de tous les auditeurs qui nous appellent ce soir.
Oui, ça a été dit par vos auditeurs. En fait, ce qui est inquiétant et ce qui est juste derrière, c'est le sentiment de déclassement qui va avec. Je suis jamais à l'aise avec le terme de fracture numérique parce que je pense que les fractures de la société, elles préexistent à cette histoire-là. Il y a des inégalités sociales, il y a des écarts économiques, il y a des enclavements géographiques, etc. Et nous avons déjà un sentiment de disparité assez forte, qui sont plus ou moins, voilà, il y a des tas d'avantages à être en zone plus enclavée, etc. Je pense que dans 20 ans, on pourra se dire c'est formidable, je suis dans une zone sans connexion. Aujourd'hui, l'enjeu...
pour l'instant, c'est pas très partagé.
Partir en vacances et se déconnecter, enfin, il faut aussi voir ce côté-là des choses. Hein. C'est-à-dire que il y a aussi quelque chose du côté de cette injonction à la connexion partout et toujours qui nous inquiète. Mais dans l'immédiat, il y a vraiment ce sentiment de déclassement. Et en fait, on attend du numérique qu'il rattrape les inégalités et on se retrouve dans la situation où potentiellement il les aggraverait, et je pense que selon le moment de notre journée, selon le lieu où nous sommes dans, et c'est vrai aussi en zone urbaine, hein, franchement, donc si je peux rassurer...
Le témoignage Anne en périphérie de Nantes.
Exactement, mais je pense que dans Paris et en Île-de-France, on va trouver des gens qui tous les jours pestent. Moi je suis dans un immeuble fibré, mais où la connexion téléphonique est pitoyable à Paris 12e.
La question de Anne, Dominique Seux, était on ne peut plus clair. Elle nous disait, est-ce que je peux exiger de mon opérateur que ça fonctionne simplement ?
Ah ben c'est un service, ça n'est pas un service public, mais il y a des obligations. Vous posez la question des responsabilités, à qui la faute, ouais, au fond de ces retards ? Je pense qu'il y a du plus et du moins dans la colonne pour les opérateurs et les responsables publics. La Cour des comptes disait également que pour le déploiement du très haut débit, la France était au 26e rang sur 28. Je crois. Alors, la France a des particularités. Elle a une densité de population. C'est un grand pays. Et donc, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est extraordinairement cher. Ce qu'on peut mettre au débit, si je puis dire, des opérateurs téléphoniques et qui installent tout ça, c'est que là, nous avons fait collectivement, les pouvoirs publics, les opérateurs, les consommateurs, le choix d'avoir des prix bas. La guerre des prix dans les télécoms, c'est non pas une spécificité française, mais on a quand même accéléré les choses. Des prix de forfait toujours plus bas. L'opérateur Free fait parmi les prix les plus bas, et d'autres bien sûr.
Mais Free, c'est le seul opérateur que ne représente pas Régis Turini.
Mais je peux en parler. Mais d'autres opérateurs. Non, mais globalement, les forfaits sont extrêmement bas. Aux États-Unis, c'est de 60 à 80 dollars quand même par mois. C'est complètement autre chose. On a fait ce choix-là en introduisant des nouveaux opérateurs, en créant de la concurrence. L'ARCEP, l'autorité de régulation, a mis une pression assez considérable. Et donc, un des résultats, qu'on le veuille ou non, c'est quand même que les investissements sont plus compliqués à la fin. Si la France a un certain retard...
Donc on revient à cette notion de rentabilité pour les opérateurs.
Si la France a un certain retard, ou aura peut-être un retard sur la 5G, en tout cas par rapport à d'autres pays comme la Corée, c'est peut-être aussi qu'il y a des investissements. À un moment, il faut de l'argent pour investir. Voilà. Alors les responsabilités sont partagées quand même.
Régis Turini.
Alors, ce qui est tout à fait exact, c'est que la France a les tarifs les plus bas des grands pays occidentaux. Et c'est assez spectaculaire. Hein. C'est-à-dire qu'on peut parler des États-Unis, mais on peut aussi
parler... Mais c'est aussi parce qu'il y a des fonds publics.
Non. Non, je parle des tarifs. C'est spectaculaire par rapport à nos voisins, même immédiats, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Vrai. Alors pourquoi c'est comme ça? Bon, c'est pour ça, c'est comme ça parce que les opérateurs se livrent à une guerre commerciale. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour les consommateurs, c'est Noël tous les jours. C'est si vous êtes un peu malin, vous pouvez passer d'une vente privée à une autre, d'une promotion à une autre, etc. Vous avez des forfaits qui sont, je parle pas de la qualité là, hein, j'imagine que le service est là, bien entendu. Vous avez des forfaits qui sont pratiquement donnés, c'est presque rien.
Mais quand je dis fonds c'est le prix public, d'un café. C'est aussi parce que en termes d'investissement initial d'infrastructure, il y a quand même une aide des collectivités territoriales. On met la main à la poche aussi. Donc du coup, les frais d'investissement sont moins lourds pour les opérateurs. Donc on imagine que le besoin de faire une énorme marge derrière ou de rembourser un emprunt, par exemple, pour un investissement sera moins fort et ainsi de suite.
Je crois que vous trompez.
Je schématise.
Pas que vous vous schématisiez, je pense que vous vous trompez. Je pense que c'est pas ça du tout. En ce qui concerne le mobile, le réseau, il est financé par les opérateurs. Et le fixe, si on prend le très haut débit fixe, on sait que sur les 20 milliards, l'État va mettre 3 milliards 3. Le reste, c'est financé par les opérateurs. Les opérateurs investissent tous les ans 8 milliards. C'est colossal, hein, il faut se rendre compte. Il n'y a pas une industrie...
3 milliards 3 de fonds publics, ce n'est pas rien non plus.
Je ne dis pas que c'est rien. Ouais. Non, je ne dis pas que c'est rien. Je dis que sur 20 milliards, il y a 3 milliards 3 de fonds publics. 8 milliards tous les ans, ce qui représente à peu près 20, 22, 23% de leur chiffre d'affaires, c'est plus que n'importe quelle industrie. C'est plus que l'énergie, c'est plus que le transport, etc. C'est colossal et c'est tous les ans. Ça, c'est un effort que font les opérateurs. Donc, il faut pas dire que ce sont les fonds publics qui font l'investissement dans les réseaux. C'est totalement inexact. Dans certaines zones, je vous en ai parlé tout à l'heure, les réseaux d'initiative publique et des coopérations avec les collectivités locales, les zones les moins denses. Pour les zones très denses et les zones moyennement denses, ce sont les opérateurs eux-mêmes qui se livrent une concurrence par les infrastructures.
Serge nous appelle de Paris. Bonsoir Serge, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Alors d'abord, moi, je voulais commencer par poser une question. C'est que le monsieur qui vient de s'exprimer parle.
Régis Turini.
Régis Turini vient de nous parler abondamment des investissements colossaux. Mais moi, j'aimerais bien savoir d'abord une chose, c'est combien ça rapporte tout ça. Parce qu'on parle toujours de ce que ça coûte, mais jamais de ce que ça rapporte. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que pour des entreprises aussi subventionnées que les opérateurs téléphoniques, qui par ailleurs délocalisent la plupart de leurs opérations, notamment avec les plateformes téléphoniques au Maroc, j'aimerais avoir aussi une explication sur cette question. Donc, ce ne sont pas vraiment des gens qui recrutent beaucoup en France. Ma troisième question, c'est pourquoi est-ce que les opérateurs, pourquoi il n'y a pas d'opérateurs publics? C'est un service public, après tout, que la rupture d'égalité que constituent les zones blanches et les zones grises, c'est quelque chose de totalement inadmissible en termes de droit, hein, tout simplement. Et pourquoi il n'y a pas de politique publique en faveur de ces questions-là? Pourquoi on doit faire appel à des collectivités locales, etc., alors que c'est à l'État de se préoccuper de ces choses-là, et pas du tout à des opérateurs privés? Ou alors il faudrait qu'il y ait une entreprise publique qui se mette en concurrence avec les opérateurs privés, et qui, avec la puissance publique, avec les moyens publics, puisse au moins les laisser là où ils devraient rester, c'est-à-dire sont des épiciers qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos des gens et qui passent leur temps à pleurnicher sur les investissements ou les non-investissements d'ailleurs qu'on peut leur reprocher aujourd'hui.
Voilà. Alors beaucoup d'éléments dans cette triple voire quadruple question, Serge. D'abord Dominique Seux, première question, Zévas, combien ça rapporte tout ça aux opérateurs? Une idée globale du marché français?
J'ai pas de chiffres en tête, je vais pas prendre de risque, mais enfin, ce sont des entreprises. Je suis pas du tout certain qu'un service public serait plus efficace. France Télécom a été un service public et a des obligations de service public encore aujourd'hui, mais a été un service public pendant très longtemps. Je crois que il faut quand même reconnaître qu'il y a des zones blanches, ça va trop lentement, mais enfin, les gains, les progrès quand même depuis 10-15 ans sont absolument considérables. Il faut pas, globalement, Il y a des trous, etc. Mais globalement, quand même, la couverture, la qualité, la puissance sont des choses absolument remarquables. Et je pense qu'il faut, au passage, peut-être rendre hommage tout simplement aux ingénieurs qui travaillent sur ces métiers-là. C'est quand même, ce sont des choses inouïes.
Régis Turini, sur l'idée d'un opérateur public qui serait donc finalement en concurrence avec les privés que vous représentez, c'est totalement inconcevable.
Non, mais monsieur pose une question très intéressante qui est une question de philosophie générale, de politique publique. Hein. Bon. Il y a 25 ans ou il y a 30 ans, on a fait un choix dans ce pays, qui était le choix de la, un double choix, le choix de la déréglementation des télécoms et le choix de la privatisation de l'opérateur historique. C'est pas nous qui l'avons fait, ce choix. Il a été fait par les gouvernements de l'époque. Et donc, aujourd'hui, on a un secteur qui est déréglementé, bien que régulé par un régulateur, l'ARCEP, ne l'oublions pas, qui impose un certain nombre d'engagements et de contraintes aux opérateurs. Et on a un secteur qui est privatisé, puisqu'aujourd'hui, nous avons quatre grands opérateurs qui sont privatisés, même s'il y en a un dans lequel l'État reste actionnaire à hauteur de 20%. Donc, on peut toujours se dire qu'il faut revenir là-dessus. C'est un choix de politique, c'est pas le choix des opérateurs, c'est pas à eux de se prononcer là-dessus, c'est aux politiques et aux citoyens d'en décider. Mais en tout cas, voilà le choix qui a été fait. Alors, il a des conséquences. Les conséquences, c'est que, effectivement, les opérateurs sont privés. Donc, ce sont des entreprises privées. Et comme toute entreprise privée, pas spécialement les opérateurs de télécom, toutes les entreprises privées, ils doivent atteindre une certaine rentabilité. C'est leur objectif, leur rentabilité. Donc, on investit.
Alors, on sait que vous ne faites pas dans la philanthropie non plus. Vous êtes une entreprise.
Mais voilà. Hein? Nous sommes une entreprise. Voilà. Alors, contrairement à ce que dit votre auditeur, on ne pleurniche pas du tout sur l'investissement. Je dirais même que c'est l'inverse. On est avide d'investissement. Dans ce métier, il faut investir. Et on souhaite investir. C'est ce que l'on fait, d'ailleurs. Puisque je vous parlais de 8 milliards tout à l'heure, c'est une somme considérable qu'on va continuer à investir tous les ans. Donc, il n'y a pas de ce côté-là de doute. Nous sommes de grands investisseurs et nous allons continuer à l'être.
Jacques-François Marchandise.
Oui, je pense que c'est Régis Turini a très bien dit. Il y a à un moment donné eu un choix. Il aurait pu y en avoir d'autres qui consistent à dire les réseaux du territoire. On aurait pu, comme ça a été fait sur d'autres familles de réseaux, on aurait pu séparer les réseaux des services.
Exactement.
Et on aurait pu se dire le boulot d'aménagement du territoire, c'est le boulot de la puissance publique. Et derrière, la concurrence, elle est intéressante sur les services. C'est très difficile de revenir en arrière là-dessus. Ça peut. Il y a d'autres configurations dans des paysages urbains, par exemple, où on va voir des réseaux publics sur lesquels des services privés ou publics viennent s'installer. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ce qui est certain, et ce qui, au fond, peut être considéré comme heureux, c'est que les opérateurs gagnent de l'argent. Et ce qui est certain aussi, c'est que les acteurs publics, et par exemple les collectivités territoriales, etc., négocient avec les opérateurs et négocient en position ayant plus ou moins anticipé, en position plus ou moins forte, des départements comme la Manche, comme la Creuse, comme les Pyrénées-Atlantiques et quelques autres, ont été très en avance de négociations. Ce qui veut dire que parfois, vous avez des territoires enclavés qui ont eu des atouts plus vite que d'autres.
Dominique Seux.
Je vais briser un peu ce consensus quand même, qui est en disant quand même qu'il faut inviter les auditeurs à faire jouer la concurrence entre les opérateurs. Maintenant, c'est extraordinairement facile de changer d'opérateur. On a tous des expériences, ce qu'on appelle l'expérience client au téléphone, avec des plateformes où on n'est pas toujours compris, où ça va un petit peu lentement, etc. Il faut faire jouer la concurrence. Ça se fait en un coup de téléphone. Il y a un point quand même. Pourquoi
encore
on doit
faut-il
être,
capter pour,
encore faut-il capter. Pourquoi est-ce qu'on doit vraiment être exigeant sur la qualité de tout ça? C'est qu'il y a des enjeux d'aménagement du territoire pour demain. Je crois que les problèmes d'organisation du territoire des villes, il faut croire au télétravail dans l'économie de demain. Les problèmes des transports, les problèmes de pollution, d'environnement, il faut penser que nous allons pouvoir organiser, grâce aux technologies qui vont aller de plus en plus vite, etc., qu'on habite à 100 km, à 50 km d'une métropole et qu'on y vienne 2 ou 3 jours dans son entreprise.
Et d'où
par
l'impérieuse
semaine.
nécessité
d'avoir des services de très haute qualité. Et c'est là-dessus qu'effectivement, les autorités de régulation, l'État, doivent être assez exigeants avec des entreprises privées. Je crois que ce sont quand même les plus efficaces dans ce domaine. Mais c'est un changement profond de l'économie qui est devant nous. Et il faut le souhaiter. À la fois, il y a trop, évidemment, de milieux semi-urbains, de milieux ruraux, de désertification, des industries qui ont disparu. Le télétravail, je crois, est une solution d'avenir.
On retourne au standard. Thierry nous appelle de Noisy-le-Grand. Bonsoir, on vous écoute Thierry.
Bonsoir monsieur, bonsoir à tous vos invités. Voilà, je me souviens du temps dans les années 60-70 où c'était France Télécom qui gérait les communications et que c'était un service public et France Télécom avait réussi à installer absolument partout dans toutes les communes des cabines publiques de téléphone. Le plus petit village, il avait sa cabine téléphonique. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. On parle de fracture numérique, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas Internet et il y a des gens qui n'ont pas de téléphonie mobile. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Alors, vous venez d'en parler un peu. Il y a eu la privatisation des sociétés. Et quand vous dites que l'État doit être exigeant envers ces sociétés, en fait, l'État ne peut rien.
Eh bien, écoutez, merci pour ce retour en arrière, mais effectivement, constat est lucide et questions intéressantes. Jacques-François Marchandise, Régis Turini.
Oui, moi, je pense que le retour historique, il est intéressant, mais il faut voir que on était dans un monde planifié, dans un monde où un petit nombre d'acteurs pouvaient décider de la marche du monde. C'est-à-dire que les États, les télécoms, ça a été le ministère des Postes et de l'Industrie, ça a été des choses qui étaient très contrôlées. On a aussi gagné des choses au fait de voir arriver la distribution de capacités que donne le numérique. On a aussi.
Enfin, là, pour Thierry, en termes de services, il se dit que c'est presque un recul. Il n'y a plus ces cabines téléphoniques France Télécom
on a beaucoup plus de services aujourd'hui.
Mais il y avait une cabine par village. Par maintenant, village. Chacun a le téléphone. Donc, c'est quand même multiplié par 100, 200, 300, 600, la liaison téléphonique.
Enfin, on peut faire la même remarque pour les postes, hein. Il y avait plus de bureaux de poste. Bon, il y avait aussi plus de trains d'ailleurs, hein. Il y avait un très bon article il n'y a pas longtemps dans un journal du soir qui montrait qu'aujourd'hui il y avait quand même des pans entiers du pays qui avaient moins de trains qu'avant. Bon. Moi, je crois qu'en matière de télécom, on peut pas tout à fait dire ça. Effectivement, il y avait peut-être une cabine téléphonique dans tous les villages, mais aujourd'hui, chacun a son téléphone dans sa poche. Alors, on peut toujours regretter que ça ne marche pas suffisamment bien, mais je voudrais pas laisser penser que les opérateurs sont satisfaits de la situation. Ce n'est pas le cas. Le but d'une entreprise, quel qu'il soit, est de satisfaire ses clients. Et on y travaille tous les jours. C'est difficile, parce que c'est un métier physique, c'est un métier d'infrastructure. Il faut creuser, il faut planter des antennes, etc. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. C'est dépendant du temps, du climat. Enfin, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans le fait que le réseau ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite. Mais les opérateurs sont là pour satisfaire leurs clients. Je n'aurais pas qu'il y ait de doute là-dessus.
Et faire un peu de bénéfice aussi. Il faut pas qu'il y ait de doute là-dessus non plus. On repart au standard. Julien nous appelle de Normandie. Bonsoir, Julien.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Encore félicitations pour la qualité de vos émissions. Moi, je suis responsable informatique, j'ai la chance d'habiter aussi à la campagne. Et donc là, du coup, pour l'accès Internet, ça se complique un peu. Le réseau cuivré est clairement obsolète par chez moi. Hein. Les techniciens soupirent quand ils doivent intervenir pour dépanner. Et la question qu'en fait qui se pose, c'est pourquoi sur les zones de campagne, on sait que le réseau cuivré est obsolète, où on sait que la fibre va nous coûter une fortune à déployer, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas obliger les opérateurs à déployer de la 4G.
Eh bien, écoutez, on va vous répondre. Le président de la FFT, Régis Turini, pourquoi ?
Alors, il y a, d'abord, contrairement à ce que vous dites, il y a des contraintes qui pèsent sur la couverture en 4G qui ont été, qu'on trouve dans les licences, qui ont été données aux opérateurs. Ces contraintes seront respectées. Là aussi, c'est lent. Ce sont des milliers d'antennes qu'il faut installer, des milliers de sites. Mais la couverture 4G progresse très très vite, elle progresse plus vite que les engagements qui avaient été pris par les opérateurs dans leur licence. On pense qu'à la fin de l'année, normalement à peu près 90% de la population, une nouvelle fois, je fais bien le distinguo,
et pas du territoire,
et non pas du territoire, sera couvert. Ça reste à vérifier, et on ira vers les 99,9% exactement comme en 3G. Mais on revient sur la discussion d'avant, sur le premier thème de discussion, c'est qu'effectivement jusqu'à aujourd'hui, les engagements sont des engagements de couverture de population, même s'il y a un changement de philosophie dans le travail de coopération avec les collectivités locales.
Dominique Seul.
Ce qui est compliqué dans ce secteur et à la fois passionnant, c'est que les choses bougent extrêmement vite. Il y a 5 ans, on a installé du Wi-Fi partout, dans les gares, même dans les trains, dans les commerces, etc. Et en fait, aujourd'hui, aux États-Unis, le Wi-Fi commence à décliner et va peut-être disparaître. Pourquoi ? Parce que les opérateurs aux États-Unis, mais ça commence en France depuis une semaine ou deux, installent des forfaits illimités en 4G. Voilà. Et donc, pour télécharger des films, des données, etc., de la data, vous n'avez plus besoin de Wi-Fi. Donc, peut-être que le système Wi-Fi va disparaître. Et donc, en fait, tous les 3-4 ans, il y a quelque chose, des investissements qui doivent être faits. Puis, on s'aperçoit que c'est un peu ou une impasse ou quelque chose qui va changer. Donc, c'est un métier, en fait, qui est assez, assez compliqué parce que les besoins des clients et la technique changent.
Les opérateurs français, Régis Turini, se préparent à cette éventuelle disparition du Wi-Fi ici, en France ?
Non, on n'en est pas là. Je crois que c'est un peu prématuré. Non, les opérateurs se préparent au nouveau saut technologique qui est la future 5G. Non, je pense qu'elle sera plutôt là en 2020 plutôt que l'année prochaine en 2018. D'ailleurs, pour le moment, il n'y a pas de standard. Mais en revanche, ce qui est tout à fait exact, et Dominique a raison, c'est que c'est un métier où on ne cesse d'avoir des innovations technologiques auxquelles il faut constamment s'adapter. Donc, vous avez 5 ans de déploiement, 5 ans où vous bénéficiez de votre déploiement, et arrive tout de suite une nouvelle technologie, donc de nouveaux investissements qu'il faut mettre en place. La 5G sera une révolution, ça c'est absolument certain, une beaucoup plus grande évolution que le passage de la 3G à la 4G. De là à dire que ça remplacera le fixe et la Wi-Fi, il y a un pas.
Je sais pas si ça, j'ai dit qu'en fait les opérateurs, c'est-à-dire un certain nombre d'opérateurs prévoient le forfait illimité.
Bien sûr,
4G. Oui. Donc le Wi-Fi n'est plus nécessaire. Voilà, c'est un peu ce qu'on entend.
Quand il y a de la 4G. Mais
et pour terminer, puisqu'il nous reste 1 minute 30 à peine, je vous soumets une question, Régis Turini, qui est un peu hors sujet, mais je vous assure qu'il y en a des dizaines comme celle-ci au standard, qui sont toutes vraiment dans la même tonalité. Dès l'instant où on parle de téléphonie mobile, eh bien, il y a tous ces gens qui se disent, par exemple Mathieu dans les Deux-Sèvres, je suis pour Internet, je suis pour le téléphone, mais est-ce que les opérateurs tiennent compte des personnes électrosensibles ?
Oui, alors ça c'est un sujet extrêmement important. Vous savez, les opérateurs et les employés des opérateurs sont également des usagers. Donc ils sont concernés par cette des utilisateurs, ils sont concernés par cette question. En ce qui concerne l'électrosensibilité et les ondes, on en tient absolument compte. Il y a d'ailleurs des travaux qui sont faits avec les autorités publiques. Et juste sur Paris, par exemple, pour vous donner un exemple et aller vite, nous venons de signer une nouvelle charte. Enfin, nous allons signer d'ailleurs demain une nouvelle charte, une charte de la téléphonie mobile, qui diminue l'exposition aux ondes. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel
signature demain.
Sommes... Oui, absolument.
Diminuer la puissance.
Oui, c'est demain ou jeudi, je ne sais plus. Oui, tout à fait.
La puissance des ondes.
Absolument.
Ben écoutez, je pense que Mathieu et tous les auditeurs qui se posaient cette question seront peut-être
nous sommes très sensibles
à ce sujet. Rassurés. Merci infiniment à tous les trois. Dominique Seul, évidemment, Les Échos, Jacques-François Marchandise, cofondateur, secrétaire général de la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, et Régis Turini, président de la FFT, la Fédération Française des Télécoms. Dans moins de 30 secondes, un nouveau journal sur Inter.